La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si l'on était paranoïaque ou trop attentif aux signaux que nous envoie le cosmos, on relèverait que les dates de naissance et de mort de l'écrivain américain Philip K. Dick, 1928-1982, sont étrangement inversées. Hasard ou coïncidence, on pense au 1984 d'Orwell, écrit en 1948, et on se surprend à penser que peut-être la vie de Dick n'est rien d'autre qu'une fiction inventée par un dieu joueur et facétieux, ou alors par un producteur de télévision, comme dans le film The Truman Show, inspiré de l'univers de Dick. Tout cela vous paraît saugrenu? Eh bien, attendez donc d'écouter nos 5 invités de cette semaine avant de vous prononcer. Jeudi, Emmanuel Carrère sera là en première partie pour évoquer le rapport entre son œuvre à lui et celle de Dick et pour parler du roman intitulé Ubique. Tandis qu'en seconde partie, Christophe Franco Rogelio évoquera le lien de l'écrivain avec la musique et tracera un parallèle entre son œuvre et celle du compositeur Arvo Pärt. La veille, mercredi, nous aurons passé une heure avec Ariel Kirou à évoquer les imaginaires de Dick et son étonnante contemporanéité. Enfin, demain, nous tâcherons de décrire les grands thèmes de l'œuvre dickienne, notamment à travers ses nouvelles. Ce sera en compagnie de Laurent Kessy. Et aujourd'hui ?
Ceci est un dernier exposé de la situation, qui est le résumé de ce que vous savez déjà.
Vous vous sentez fatigué. Vous ne désirez rien d'autre qu'un long et profond sommeil.
Aujourd'hui, pour raconter la vie de Dick, nous sommes en compagnie d'Étienne Barillier, spécialiste du genre qu'on appelle le steampunk et auteur notamment du guide Philip K. Dick, paru aux éditions Actu SF. Et pour commencer cette biographie, entrons directement dans le vif du sujet avec ce qui en constitue sans doute l'épisode le plus traumatisant.
Phil eut toute sa vie le sentiment qu'il n'existait qu'à moitié, qu'une partie de lui était morte et reposait déjà dans la tombe. Ce qui est intriguant, c'est qu'il savait qu'il y avait une tombe à flanc de montagne dans le Colorado qui lui était destinée. Parce que la tombe dans laquelle Jane a été enterrée en 1929 portait son nom à elle, et qu'à côté, il y avait la place pour le nom de Phil. Finalement, quand Phil est mort, il a été enterré avec sa sœur.
It's a common theme in my writing that a dark-haired girl shows up at the door of the protagonist and tells him that his world is delusional, that there's something false about it.
Well, this did finally. Bonjour, Étienne Barillier.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci surtout d'être avec nous. Alors on entre directement dans cet univers à la fois inquiétant et fascinant qui est celui de Philip K. Dick. Univers d'un homme que vous qualifiez de fou et de génie. Peut-être que les deux d'ailleurs vont ensemble dans son cas.
Les deux vont ensemble, mais ce ne sont que des étiquettes qui, comme toutes les étiquettes, peuvent virevolter dans le vent et s'interchanger à loisir.
Alors, l'auteur de bande dessinée américain Art Spiegelman n'hésitait pas à mettre K. Dick au niveau de Kafka. Vous le faites aussi, j'imagine.
Sans aucun souci. Philip K. Dick est définitivement un des grands auteurs américains de la deuxième moitié du XXe siècle.
Oui. Un auteur qui est donc né à Chicago le 16 décembre 1928. Et la première chose à dire, on l'a entendu dans l'archive introductive, c'est qu'il a une sœur jumelle, Jane, et que tous les deux naissent 6 semaines avant terme. On peut dire que les choses partent quand même assez mal pour Dick au moment où il fait son apparition dans le monde, Étienne Barillier.
Cela commence mal. Philippe va être le premier des deux à naître. Les parents ignoraient qu'il y avait des jumeaux. Mmh. Donc la naissance de Charlotte sera une surprise. Donc il y a Philip Kindred et sa sœur Jane Charlotte qui va décéder 6 semaines plus tard, en partie par de faiblesse et de peut-être de malnutrition. La mère n'avait peut-être pas assez de lait pour donner pour nourrir les deux enfants.
Alors ça mais paraît quand même tout à fait extraordinaire de mourir de malnutrition à ce moment-là du XXe siècle. Qu'est-ce que ça signifie peut-être du rapport entre la mère et ses enfants ou les parents et ses enfants ?
Bah, déjà, donc nous sommes en 1929. C'est un couple un peu particulier. Il y a un père qui est très distant, qui a des idées sur ce que doit être l'éducation, ce que seront l'éducation de son fils en l'occurrence. La mère, elle, est une des primo féministes. On a pu conserver son carnet de grossesse et des premières années de son enfant où elle notait tout ce qui le concernait. Mais en 1929, la médecine d'une part, la pauvreté, je ne parle pas de misère encore, mais la pauvreté a fait que un des deux enfants n'a pas pu survivre. Ce qui a été traumatisant certainement pour le couple et qui aura été un traumatisme qui va suivre Philip Dick durant toute son existence.
Alors lui aussi.
Et je le confirme, par souci d'économie, effectivement, il y avait une tombe les parents qui pensaient que le deuxième ne survivrait pas. Sa tombe était prête. Elle a attendu toute sa vie.
Oui, parce que lui aussi, il a été hospitalisé. C'est dire quand même l'incroyable maltraitance, peut-être. Alors évidemment, il y a quand même l'argent qui manque, mais c'est très très étonnant de ne pas arriver à nourrir malgré tout ses enfants. On dirait presque qu'il était, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais dans une sorte de demi-vie lui aussi. Sa sœur est morte et puis lui, il est hospitalisé. Il est dans une demi-vie, un peu comme ces personnages dans son roman Ubik.
Un peu comme ces personnages, Philip K. Dick commence sa vie dans une couveuse où on arrive à l'hôpital à le récupérer in extremis, et il terminera sa vie dans un hôpital relié à des machines qui finiront par être débranchées. Mmh.
Alors vous avez commencé à nous faire un petit peu le portrait de ses parents, de sa mère qui a été une femme qui visiblement voulait devenir écrivaine, mais qui n'a pas réussi dans cette carrière-là. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin dans le portrait de cette mère, Étienne Barillier ?
Alors, ce que l'on sait de la mère de Philip K. Dick, c'est en grande partie grâce à la biographie que lui a consacrée sa troisième femme, Anne Dick, qui a retrouvé, interviewé énormément de personnes. Donc cette mère est un personnage assez fascinant, qui est à la fois une femme qui sera présente pour son fils durant toute sa vie, mais qui d'un autre côté sera dure, sera exigeante, sera parfois en rébellion contre son mari. Par exemple, voilà, le mari avait peur de toucher son fils, il avait peur que son fils soit malade, qu'il le contamine, qu'il lui transmette des maladies. Ça peut se comprendre si quand on pense à la mort de la sœur. Mais la mère, elle, acceptait de ne pas avoir de contact physique, elle aussi, avec l'enfant. Elle va chercher, durant toute sa jeunesse, à le protéger du monde extérieur. Malheureusement, c'est un enfant extrêmement précoce, très intelligent, mais c'est aussi un enfant qui va développer beaucoup de maladies, de gènes, des troubles psychologiques. Très jeune, il va être agoraphobe, et il commencera une psychanalyse. Enfin, sa mère l'amènera chez un psychiatre dès ses 13-14 ans.
En fait, il aura très tôt une connaissance de ce que c'est que la psychiatrie. Vous le dites, à 14-15 ans, puisqu'il s'intéresse à tout, il comprend, il se documente sur les théories psychanalytiques, par exemple.
Oui, parce que Les parents vont divorcer au bout de quelques années. Le père travaille pour le ministère de l'Agriculture, donc il est muté régulièrement de mission en mission. Et au bout d'un moment, la mère refuse de le suivre. Il y a un divorce très douloureux qui fait qu'il se dispute la garde du fils. In extremis, donc Dorothy va garder Philippe, l'amener à Washington, puis après repartir en Californie et s'installer à Berkeley, où elle va chercher à lui donner la meilleure éducation possible. Mais c'est une femme seule, une femme qui veut être indépendante, qui va élever un fils. Mais quand Philippe Kadic est à l'école, lui, il va sortir de cours vers 15h, 15h30, tandis que la mère, elle, ne va rentrer du travail que vers 18h, 19h. Donc il a cette capacité à être extraordinairement autonome, très curieux, de se plonger dans des livres, d'écouter beaucoup de musique déjà, d'apprendre à taper à la machine, de développer des dons hein, qui font le charme de sa mère, qui voit en lui un futur écrivain. Donc il dessine, il joue du piano, il écrit de la poésie, etc.
Mais tout cela donc sans son père, parce que il va quitter le foyer familial. Alors d'abord il est souvent absent et puis il va partir s'installer à Reno, donc en Californie aussi, mais tout de même assez loin de là où habitent Philippe et sa mère. Est-ce que ensuite ils vont se retrouver ou est-ce que c'est une séparation quasiment définitive?
Ils vont se retrouver une petite dizaine d'années plus tard, mais Philippe n'aura jamais de rapport régulier avec son père, et c'est par contre son père qui, à sa mort, ramènera ses cendres donc dans le Colorado pour qu'il soit inhumé auprès de sa sœur. Mais il y aura eu ce qu'on appelle donc la figure du père absent. Ce qui expliquera peut-être, sans faire une psychanalyse de bas niveau, que on va retrouver dans toute la vie de Dick une série de paires de substitutions auxquelles il sera toujours extrêmement fidèle.
Je compose, moi, je n'éructe pas. Et l'inspiration, ça ne fonctionne pas au presse-bouton.
Si t'écrivais des airs de jazz, tu t'énerverais moins et ça te rapporterait plus.
Je compose pour les mélomanes, pas pour les jukeboxes. Un festival retransmis en Eurovision. On dirait que tu n'en saisis pas l'importance.
La Compagnie des œuvres que vous écoutez, vous êtes bien sur France Culture. Nous parlons de l'écrivain américain de science-fiction, Philippe K. Dick, de science-fiction, mais pas que de science-fiction. On va le voir avec vous, Étienne Barillier. Alors, à quel moment sait-il qu'il veut devenir écrivain? Est-ce que ça vient assez tôt dans sa formation?
Ça vient très tôt, parce que voilà, on a pu retrouver dans ses dossiers scolaires des volontés de premiers écrits, des bouts, des notes de fragments de romans qui
il voulait. À 14 ans, il y a un manuscrit qui s'appelle Return to Lilliput. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire ou si même il a été publié.
Ah ben non, manuscrit perdu. Donc cette volonté donc d'écrire une suite à Gulliver, ce qui est voilà, c'est vraiment le type de défi littéraire qu'un futur écrivain peut se jeter.
Alors, il commence à écrire en pension hein, à Washington, parce que on l'a peut-être pas encore assez souligné. Le moment Washington est un moment finalement où la mère de Dick n'a pas vraiment de domicile. Hein. Ils partent vivre un peu chez les uns, chez les autres. La plupart du temps, ils logent chez des amis. Et pendant un moment, il est inscrit dans une pension Quaker, où justement, il écrit des textes qui sont des poèmes et des poèmes de souffrance pour la plupart.
Ce sont une littérature adolescente. Philippe K. Dick, à cette époque, donc il est en pension, C'est un bon élève, hein, et voilà, il est apprécié sans être populaire. Il a des rapports qui commencent à être tendus avec sa mère. La relation devient complexe, hein. On est entre la fusion et le conflit perpétuel. À la fois, il reproche à sa mère de l'avoir mis dans cette pension, puis après, il refuse de partir pour revenir. Donc, on est toujours dans une espèce de tension, mais l'art, que ce soit la littérature, puis peut-être la musique, prennent une part de plus en plus importante dans sa vie.
Donc, il écrit par exemple cette histoire d'une fourmi qui traîne les restes d'un bourdon mort, d'un chat qui mange un oiseau, qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans sa nouvelle qui s'appelle Le Voyage gelé. Donc, il y a quand même un univers assez noir déjà qui est assez présent, Étienne Barillier.
Oui, mais c'est aussi des épisodes dont il aura l'occasion de reparler de cela comme étant les moments de son enfance où il aura découvert l'empathie, la caritas platonicienne, donc une espèce d'humanité qui se transcende à travers la contemplation du vivant. Et c'est quelque chose qui aura été, qui revient chez lui. Ce ne sont pas des souvenirs vains, c'est des choses puissantes.
Donc c'est aussi un moment d'intense lecture. Il y a les pulps, les magazines de science-fiction qu'il lit assidûment, mais il y a aussi des auteurs comme Joyce, Proust, Kafka, dont on évoquait le nom, Dos Passos, Stendhal, Flaubert. Il fait une synthèse peut-être un petit peu entre ces deux types de culture et ces deux types de livres.
Les pulps, hein, vous savez, ce sont ces magazines de science-fiction qui est, enfin, d'imaginaire, parce qu'il y avait des pubs spécialisés dans l'aventure, le policier, le voyage, l'exploration, etc. Philippe K. Dick, c'était ceux de science-fiction, et donc ces pulps, ces magazines publiés sur du papier, donc de très très mauvaise qualité, véritablement de la pulpe, ce qui explique qu'aujourd'hui ces livres-là tombent en poussière. Il les lisait assidûment, il les collectionnait, hein. Il a eu deux grandes collections dans toute sa vie, c'était sa bibliothèque et ses disques. Mais il se nourrit sans frontières et sans barrières. Il passe de l'un à l'autre et il avait cette capacité de se rappeler de toutes ses lectures.
Alors en 1947, il quitte la maison de sa mère, il s'installe avec un groupe de jeunes artistes dans un immeuble de Berkeley, parce qu'entre-temps, vous l'avez dit, ils sont retournés sur la côte ouest. Il y a des poètes d'avant-garde dans cette maison, Robert Duncan, Jack Spicer, George Emerson. Est-ce qu'il fait partie d'une sorte de contre-culture? Comment qualifier un petit peu ce milieu à l'orée de ses 20 ans?
Cette zone géographique, c'est le San Francisco des années 50, et c'est ce qu'on appelle la Renaissance de San Francisco. C'est-à-dire, pendant quelques années, au tournant des années 50, une espèce de florissement de création, principalement de création poétique. Et Philippe K. Dick va être au contact de toutes ces personnes-là. On n'est pas encore en train de parler de contre-culture, mais c'est une direction qui est en train de germer progressivement. Et encore une fois, il va découvrir des milieux qui vont être différents, auxquels il cachera en grande partie qu'il lisait passionnément de la science-fiction, parce que bon, certains de ses camarades ne l'auraient pas compris. Mais il a cette imprégnation culturelle. Par bien des aspects et par le parcours de Philippe K. Dick, il est véritablement une éponge qui va se nourrir de toutes ces rencontres.
Alors il se nourrit aussi, on l'a dit, de ses lectures, de la musique, mais il ne sait pas très bien ce qu'il veut devenir exactement. Il y a un moment où il a envie de devenir paléontologue, et puis il commence à travailler dans une boutique. On a dit qu'il aimait beaucoup la musique, et c'est une boutique où on vend des disques, on vend des radios, et son idéal finalement c'est de gérer son propre magasin de disques, Étienne Barillier, à ce moment-là.
Mais la rencontre de, enfin, le travail. C'est un travail d'adolescent, mais qui va devenir à peu près un travail d'étudiant, va avoir un impact considérable dans toute sa vie.
Pourquoi ?
Parce que non seulement il va rencontrer, il va pouvoir assouvir son goût immodéré pour la musique. Vous pensez être mélomane et travailler dans un magasin de disques où il avait accès à tout. Mais en plus, il va découvrir les réparateurs.
Donc, les bidouilleurs.
Voilà, les employés qui vont. Aujourd'hui, ça nous semble étrange, mais à l'époque, on amenait à faire réparer sa chanifie quand elle avait un problème. Donc, il découvre ces gens-là. Il découvre également le patron de l'établissement qui va être pour lui véritablement son premier père de substitution, c'est-à-dire quelqu'un qu'il va trouver comme étant quelqu'un de droit, d'honnête, qui gagne honnêtement sa vie. Mmh. Et pendant toute l'œuvre de Dick, il y a ce motif de l'artisan honorable. Il peut être brisé par la vie, il peut souffrir, il peut lui arriver des catastrophes, mais il a toujours la dignité d'être celui qui, d'une certaine façon, gagne grâce à son travail manuel.
Ouais. Et puis donc, il y a ce rapport à la musique que vous mentionnez, hein. À 12 ans, il jouait un peu de piano. À 14 ans, il pouvait reconnaître n'importe quel opéra ou symphonie, disait-il. Et puis, dans son œuvre, il va y avoir très souvent des allusions à la musique, comme par exemple dans une nouvelle assez célèbre, La machine à préserver, dont je vous propose d'écouter à présent un extrait un petit peu en longueur.
Doc Labyrinthe, comme tous les gens qui ont trop de loisirs et lisent énormément, avait acquis la conviction que, comme l'Empire romain en son temps, notre civilisation prenait le chemin de la décadence. Il lui semblait y déceler les fissures mêmes qui avaient abouti à l'anéantissement de l'Ancien Monde, celui de la Grèce et de Rome. Il était persuadé que notre société finirait par sombrer de la même façon pour laisser place à un âge d'obscurantisme. Une fois parvenu à cette conclusion, Labyrinthe s'était mis à réfléchir à toutes les belles choses qui seraient perdues dans cette redistribution des cartes. Il songea aux œuvres d'art, à la littérature, aux belles manières, à la musique, bref, à tout ce qui disparaîtrait. Et il lui semblait que, de toutes ces grandes et nobles réalisations de l'esprit humain, la plus périssable et la plus vite oubliée serait sans doute la musique. La musique est le plus précaire des arts, le plus fragile, le plus délicat, le plus facilement anéanti. Cette perspective inquiétait beaucoup Labyrinthe, car c'était un fervent mélomane, horrifié à la pensée qu'un jour Brahms et Mozart n'existeraient plus, qu'il ne resterait plus rien de cette douce musique de chambre qu'il faisait rêver de perruques poudrées, d'archets enduits de résine et de longs et fins candélabres dont la cire perlait à l'infini dans la pénombre. C'est ainsi que lui vint l'idée d'inventer une machine à préserver. Un soir où, installé dans le grand fauteuil de son séjour, Labyrinthe écoutait à faible volume de la musique sur son électrophone, il lui vint une vision. Une image étrange se forma dans son cerveau, la dernière partition existante d'un trio de Schubert, un ultime exemplaire écorné, maculé de traces de doigts, traînant par terre dans un endroit laissé à l'abandon qui devait être un musée. Dans le ciel passait un bombardier, et les bombes tombaient, réduisant en ruine le musée dont les murs s'effondraient avec fracas, et les gravats s'amoncelaient sur le trio de Schubert désormais perdu, promis au pourrissement et à la décrépitude. Alors, dans la vision de Doc Labyrinthe, la partition émergeait des décombres comme une taupe fouissant la terre à coups de griffes et de dents et en déployant une furieuse énergie. Si seulement la musique possédait l'instinct de survie élémentaire et banal des taupes ou des vers de terre, tout changerait. Si on pouvait la transformer en créature vivante, en animaux dotés de crocs et de griffes, elle serait en mesure de survivre. Si seulement on pouvait construire une machine susceptible de métamorphoser les partitions musicales en êtres vivants.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou.
Oui, alors là, je pense que nous avons un petit problème d'ordre technique. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Étienne Barillier ?
Toujours présent.
Vous êtes là, eh ben, ça fait plaisir. Donc la musique fait partie vraiment du paysage de Philippe K. Dick, avec les chats aussi, je crois qu'il a toujours eu beaucoup de chats avec lui. Mais en 1947, il s'est inscrit à l'Université de Californie à Berkeley, pas pour étudier la musique, mais pour étudier l'allemand et la philosophie.
Il s'inscrit, mais ça va petit à petit être des années compliquées pour lui qui commencent. Alors,
toute sa vie est compliquée, non?
Enfin, toutes les vies sont compliquées.
Oui, mais la sienne a l'air quand même particulièrement difficile.
Et c'est l'époque où, ces problèmes d'agoraphobie vont devenir beaucoup plus handicapants. Et où il va devoir progressivement arrêter les cours parce qu'il ne sera plus capable de pouvoir y assister.
D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il devient finalement écrivain. C'est qu'à un moment donné, il a tellement de phobies qu'il ne peut pas travailler vraiment avec les autres. Il a beaucoup de mal à être sous la supervision de quelqu'un. Et du coup, ce qui lui permet de vivre, c'est de rester chez lui et d'écrire.
Alors il y a ça, mais par exemple quand il s'inscrit, autre figure paternelle, c'est au cours d'écriture d'Anthony Butcher. C'est donc
un critique et auteur de science-fiction, qui avait un atelier d'écriture.
Voilà, qui va être le premier à publier un texte professionnel de Philippe K. Dick. Donc Philippe arrive à assister au premier cours, mais au bout d'un moment ça devient trop dur, et c'est sa mère qui va aller assister au cours à sa place, qui va amener ses textes, qui va prendre des notes et qui va tout ramener à son fils à la maison.
C'est quand même un rapport très fusionnel, mais très étrange aussi, qu'il y a entre le fils et la mère.
Très fusionnel, très étrange, à la fois très violent, et il y aura des crises et des disputes toujours définitives entre deux. Néanmoins, elle sera présente chaque fois que son fils touchera le fond ou qu'il aura besoin d'elle. Elle aura été la meilleure mère qu'elle aura pu être.
Mmh. Alors, pour revenir
la
quand
mère
même,
que tout le monde veut avoir.
Pour revenir sur cet épisode à l'université de Berkeley et l'étude de la philosophie, même si ça a duré très peu de temps, qu'il a dû abandonner ses études, on sent quand même qu'il y a un rapport à la philosophie qui est très présent chez Philippe K. Dick. Est-ce que ça ne vient pas un petit peu de là aussi? Est-ce qu'il n'a pas commencé à se poser un petit peu les questions qui allaient le préoccuper toute sa vie dans ce cursus?
Alors, la philosophie reviendra constamment dans l'œuvre de Dick et dans ses recherches et dans ses goûts. Que ce soit sa lecture, alors principalement dans sa jeunesse, ça va être beaucoup les platoniciens, puis après les grands philosophes allemands. Plus tard dans sa vie, il s'intéressera à la gnose. Alors, la question qui se pose, mais après c'est des questions de détail, dans quelle mesure est-ce qu'il lisait intégralement les livres, ou est-ce qu'il se contentait, parce qu'il pouvait assimiler beaucoup de données, de piocher des encyclopédies à gauche et à droite, de quoi construire un système. La bibliothèque de Philippe K. Dick a été perdue, donc on ne sait pas
ce qu'elle contenait.
La nature exacte de ces lectures, oui.
Et on ne connaît pas non plus tout ce qu'il avait en termes de disques, puisque sa première discothèque a été plus ou moins détruite par sa première femme. Il s'est marié une première fois en 1948, il était très jeune, et la femme en question s'appelait Jeannette Marlin ou Marlene, et elle a détruit sa discothèque.
Alors, elle ne l'a pas, elle l'a menacé.
Ah, elle a seulement menacé.
Je crois que c'était un crime. Enfin, là, c'était du degré de l'intolérable pour Dick. Mais bon, ils se sont mariés. Lui, il avait 19 ans. Le mariage a duré 6 mois. Est-ce que ce mariage était un moyen aussi de prendre son indépendance, de quitter la mère?
véritablement. Il y a une première femme, il y en aura une seconde assez rapidement, c'est Cléo Apostolides, qui est étudiante à Berkeley. Ils se marient en juin 1950.
Et ils se marient, et là, cette fois, c'est un mariage qui va durer à peu près 8 ans. Mmh. Donc, là, c'est Dick est désormais un jeune adulte, grâce à sa femme. Il va découvrir à la fois un nouveau monde, parce que sa femme est très impliquée dans les milieux politiques de Berkeley, les milieux étudiants, les milieux artistiques, mais aussi c'est l'écrivain qui naît. Dick veut gagner sa vie de sa plume.
Et elle le soutient aussi beaucoup.
En 58, elle le soutient, mais c'est elle qui va travailler, parce qu'il ne publie pas. Elle va l'aider parce que à l'époque, eh bien, il fallait faire des copies des manuscrits à la main, il fallait les poster, les amener à la poste. Il fallait soutenir son mari, comme la fois où un jour le perron devant chez eux était jonché, littéralement jonché, de manuscrits retournés, de lettres de refus, etc. Mmh. Donc, elle a véritablement confiance en lui. Et ce n'est pas pour rien que Dick, dès le début, dès ses premiers textes vendus, sa première nouvelle, il va la vendre $75.
Mmh. Bah, il faut dire
avec ça que vous pouvez faire vivre.
Oui, on peut pas faire vivre
cette somme qui couple vivre son couple.
Voilà, je vous propose justement d'écouter à ce sujet un extrait de Dick parlant de sa pauvreté.
Quand je revois ces histoires écrites pour les plus anciennes il y a plus de 25 ans, une image me revient à l'esprit, celle du magasin pour chiens Lucky Dog Pet Store. Il existe à cela une excellente raison. Je veux parler d'un élément qui n'est pas seulement propre à ma vie, mais que partagent la plupart des écrivains qui veulent vivre de leur plume. Cela s'appelle le dénuement. À présent, j'en ris et j'éprouve même une certaine nostalgie pour cette époque, car dans de nombreux domaines, ce fut pour moi la plus belle période de ma vie, surtout au début des années 50, au commencement de ma carrière d'écrivain. Mais nous étions pauvres. En fait, nous, ma femme Cléo et moi, étions même de pauvres pauvres. Nous n'en tirions pas la moindre satisfaction. La pauvreté ne forge pas le caractère, c'est un mythe. Cependant, elle a l'avantage de former d'excellents comptables. Il faut compter et recompter soigneusement son argent, très peu d'argent. Avant de sortir de chez soi pour se rendre chez l'épicier, il est indispensable de savoir avec précision quelle somme on pourra dépenser et quels achats on effectuera. Car le moindre écart fera du lendemain un jour de jeûne, de même peut-être que le surlendemain. Quoi qu'il en soit, je me retrouve donc dans les années 50 au Lucky Dog Pet Store de San Pablo Avenue, à Berkeley, Californie, en train d'acheter une livre de viande de cheval hachée. La raison pour laquelle je suis un écrivain indépendant qui vit dans le dénuement est, et j'avoue ceci pour la première fois, que je suis terrifié par les images de l'autorité telles que les patrons, les flics et les professeurs. Je veux être écrivain indépendant pour pouvoir être mon propre patron. C'est une démarche logique.
En fait, on a quand même l'impression, Étienne Barillier, que c'est un moment assez heureux, malgré tout, de la vie de Philip K. Dick. Vous l'avez dit, il est resté 8 ans avec cette femme qui l'aide énormément, qui visiblement l'aime aussi beaucoup. Est-ce que ça ne fait pas finalement partie des meilleures années de sa vie ?
C'est les années d'insouciance. Voilà, il a un peu plus de 20 ans. Bon, ils ont froid, ils ont faim, ils ont très très faim. Ils vivent vraiment dans le dénuement. Mais en même temps, eh bien, il y a une créativité extraordinaire qui se nourrit. Il peut écrire avec une puissance de production assez folle. En quelques années à peine, il va publier près de 80 nouvelles. Et il va écrire en même temps une grosse dizaine de romans.
Donc jusqu'à l'épuisement, donc là, en fait, il travaille au maximum de ses capacités.
Voilà, mais peut-être que ce qui peut se faire à 22 ans deviendra plus difficile et plus exigeant les années suivantes.
Oui. Bon, il faut dire que
il a une facilité.
il faut dire que s'il a une facilité, il a aussi beaucoup d'amphétamine dans le sang, parce que la drogue va lui permettre de soutenir ce rythme d'écriture incroyable.
Alors, attention, à l'époque, ce n'est pas de la drogue, c'est un médicament.
Oui.
Donc, c'était des amphétamines.
C'est vrai que tous les écrivains, enfin, beaucoup d'écrivains en prenaient. Hein.
Voilà, et puis Balzac buvait des litres de café. Mais ce qui... voilà, si vous faites des nouvelles et qu'il faut produire énormément, au bout d'un moment, effectivement, vous pouvez aller au drugstore, ou alors il pouvait aller piquer dans la pharmacie de sa mère... des cachets pour pouvoir ne pas dormir pendant 2-3 jours et pouvoir écrire.
Je n'ai jamais pensé que la science-fiction avait moins de valeur que la grande littérature. Au lycée déjà, j'avais travaillé sur une histoire de science-fiction. J'étais dans une situation un peu curieuse. Je lisais de la science-fiction depuis l'âge de 12 ans et j'en étais complètement accro. Vraiment, j'adorais ça. Mais je lisais aussi ce que les intellos de Berkeley lisaient, par exemple Proust et Joyce. Je vivais donc dans deux mondes qui normalement ne se rencontraient pas. Extrait du documentaire Les Mondes de Philip K. Dick, de Yann Coccard et Ariel Kirou. Il faut parler aussi avec vous, Étienne Barillier, de ce rapport entre science-fiction et littérature dite générale. Parce que finalement, pendant toute cette période de sa vie, il ne pense pas réellement écrire de la science-fiction. Ça n'est pas là qu'il se voit un avenir.
Il écrit énormément de science-fiction.
C'est alimentaire.
Un lecteur passionné et érudit de science-fiction. Il aime la science-fiction. Mais en même temps, dans une attitude, il cherche à placer des romans de littérature générale, de littérature blanche, qui ne seront jamais acceptés de son vivant. Il n'y en a qu'un qui sera publié très tardivement et encore par un tout petit éditeur. C'est donc des chroniques, des petites fresques qui dépeignent la Californie des années 50.
Alors il y a
donc des romans réalistes.
Ouais. Il y a aussi cet épisode assez étonnant qu'on découvre dans la biographie de K. Dick, c'est son rapport avec le FBI, parce que très tôt il est suspecté par les agents du FBI. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire?
Quand il était marié avec Cléo, ils ont eu un jour une première visite d'agents du FBI. Il faisait le tour un peu des étudiants ou dans les milieux contestataires, et il cherchait des espèces d'agents doubles. Il cherchait à recruter des personnes qui pouvaient servir un peu d'informateurs.
Est-ce qu'ils ont été des informateurs du FBI?
Non. Mais Dick, pendant toute sa vie, a vécu, après, quand il y a eu des passages paranoïaques, où il se demandait dans quelle mesure il était espionné par le FBI, ou s'il était véritablement toujours une cible, ou s'il n'avait pas écrit dans ses textes quelque chose qui aurait pu provoquer l'intérêt du FBI. Il faut aussi mettre dans le contexte d'une époque, et de la paranoïa d'une époque de la guerre froide, ce qui pour quelqu'un d'aussi hypersensible et d'un peu paranoïaque parfois, comme Dick, pouvait donner lieu à des excès. Il racontait que ces agents du FBI qui leur avaient rendu visite, un des deux avait sympathisé avec le jeune couple et lui avait même appris à conduire.
The paranoia of the Nixon period was so great.
Sous Nixon, il y avait une telle paranoïa au sein du gouvernement et dans le milieu de la contre-culture, les gens de Berkeley, que les gens comme moi, qui avaient grandi à Berkeley, étaient stigmatisés par l'administration Nixon. C'est impossible de dire dans quelle mesure nos peurs étaient fondées. Il y a eu des violations de domicile, on a fouillé ma maison, on a ouvert mes dossiers, on a volé mes papiers. On n'a jamais su qui avait fait ça. Mon avocat disait que c'était le gouvernement. Il n'y avait pas de doute que c'était le gouvernement, à mon avis, mais j'ignore ce qu'il cherchait ou ce qu'il s'imaginait de mes activités. Je ne sais même pas si c'était le gouvernement. Mais il y a eu de nombreux cambriolages comme celui-ci, et des expériences de ce genre ont tendance à vous rendre très paranoïaque. J'étais soupçonné d'un crime, mais comme dans le procès de Kafka, on ne m'a jamais dit ce que j'avais fait. On m'a juste dit que j'étais un croisé et qu'ils n'avaient pas besoin de croisés. Le fait d'être un intellectuel, un écrivain, me rendait suspect à leurs yeux. Vous devez comprendre qu'aux États-Unis, être un intellectuel, être un écrivain, c'est comme de porter une pancarte sur son dos disant « Je suis un ennemi de l'État ». Compagnie des œuvres sur France Culture. Alors, reprenons notre chronologie à la fin des années 50 où le couple déménage dans la petite ville de Point Reyes Station. C'est dans le nord de la Californie, dans une espèce de petite communauté. Donc là, il relit son sixième roman de SF qui s'appelle Le Temps désarticulé, qui ne lui rapporte pas beaucoup d'argent là encore. Et il rencontre dans cet endroit une voisine, Anne Rubenstein. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Étienne Barillier, parce que ça va être encore une fois une personne, une personnalité qui va faire que Kadic va prendre un nouveau tournant.
Donc Anne Williams Rubenstein est une jeune veuve. Elle a une trentaine d'années, elle élève ses filles. Et elle va prendre, ils vont sympathiser par des amis communs. Enfin, l'arrivée d'un écrivain dans la région quand même avait fait sensation. Mais très très rapidement, Philippe va tomber désespérément amoureux d'elle, va lui faire une cour effrénée, divorcer, et à peine quelques mois après être arrivé, ils vont se marier grâce à une procédure accélérée à Mexico.
Donc c'est une personnalité qui peut lui plaire pour diverses raisons. Elle a notamment des liens avec des revues littéraires. Elle s'intéresse comme lui à la psychanalyse. Elle lit Freud, elle lit Jung. Elle élève des animaux. Elle aime les chats aussi comme lui. Donc on a l'impression que c'est l'amour fou. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ?
Ça va être à la fois l'amour fou, il va y avoir beaucoup de disputes. Philippe K. Dick va aimer être père, s'occuper des filles d'Anne. Mm-hmm. Il va s'assécher. Petit à petit, il ne va plus être capable d'écrire, ou en tout cas d'écrire quelque chose qui vaille le coup, jusqu'à ce que peut-être est-ce le contre-coup des amphétamines, hein, des années d'excès, la machine à écrire ne fonctionne plus.
Mm-hmm. Et alors ça ne lui plaît pas du tout à Anne Rubenstein.
Ça ne lui plaît pas. En même temps, Philippe va se voir il va y avoir le refus de l'ensemble de ses manuscrits de littérature générale. Son agent va les restituer en lui disant qu'il arrête et qu'il ne cherchera plus à les placer. Mm-hmm. Et au bout d'un moment, pour Anne, c'est plus possible parce que il y a son mari qui n'écrit plus et au contraire, il va venir vouloir l'aider dans son métier à elle. Elle fabriquait des bijoux, des babioles de la bijouterie.
Oui, parce que lui, pour lui, la littérature c'est terminé. Il y a un moment où il pense arrêter.
Parce qu'il n'en est plus capable. Il a des épisodes de un peu hallucinatoires, on va dire. Il ne sait plus trop ce qu'il veut et sa femme, qui est quand même quelqu'un d'intelligent, de très rigoureux, va lui dire, tu vas dans la cabane au fond du jardin et tu n'en sors plus tant que tu n'as pas écrit.
Mmh. Et ça va fonctionner.
Et donc, Philippe va, il va amener sa Shanifi, c'est sa collection de disques, il va s'installer dans la cabane au fond du jardin et il va se remettre petit à petit à écrire. Et ça va donner le maître du Haut-Château.
Alors, on va peut-être dire un mot sur le maître du Haut-Château, mais avant ça, il y a quand même un autre livre qu'il faut mentionner, c'est Confession d'un Barjo. Et on a l'impression, alors ça, c'est le seul roman réaliste qu'il a publié vraiment de son vivant, et c'est un peu l'histoire de son couple avec Anne Rubinstein.
Oui, mais c'est le problème, c'est qu'une partie de ce livre a été écrite alors qu'ils étaient encore en lune de miel, et que Confession d'un Barjo raconte donc la vie tragique-comique. Enfin, c'est un roman très drôle, hein, mais très féroce. Où il y a un couple qui se sépare et avec le beau-frère qui est le Barjo du titre, qui est un des premiers avatars de Philippe K. Dick qui apparaîtra par la suite dans son œuvre.
Mmh. Alors le Maître du Haut-Château, c'est le grand roman, le premier des grands romans de la maturité. C'est le fruit de 7 ans de recherche. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre, Étienne Barillier?
Oh, c'est une uchronie, c'est donc une histoire parallèle où il imagine que se serait-il passé si, et dans le cas, que se serait-il passé si les nazis avaient remporté la Seconde Guerre mondiale et que les États-Unis avaient été occupés par le Reich.
Par le Reich et par les Japonais aussi.
À moitié, partagé le territoire, donc une côte pour les nazis et une côte pour les japonais. Mmh. Et l'aspect brillant du projet de Dick, c'est justement de proposer une uchronie qui ne cherche pas à partir sur l'idée banale, simple, évidente, de dire les nazis sont les japonais sont des méchants, la résistance américaine va se réveiller, voilà, écrire le grand roman américain. Ce qu'il propose, c'est de montrer que ben, si les nazis occupent les États-Unis, eh bien la vie continue. Mmh. Et ce n'est pas forcément une image de l'Amérique qui pourrait être la plus séduisante. Et puis, comme il s'agit d'un roman de Philippe K. Dick, il y a bien évidemment la scène où un personnage va avoir une espèce d'hallucination, où il va apercevoir une réalité parallèle dans laquelle les nazis auraient perdu la guerre. Mmh.
Alors, il faut dire qu'à ce moment-là, ça ne va vraiment plus très bien dans leur couple. Il y a une histoire d'avortement à l'insu de Philippe K. Dick qui fait qu'il le vit comme une très profonde trahison. Et c'est un peu, sans doute, ce qui va causer la fin de ce troisième mariage.
Oui, et puis bon, Philippe K. Dick, ils ont eu des disputes très violentes. Il l'a frappé une fois, il a réussi à convaincre le psychiatre de sa femme qu'elle devrait être internée. Mm-hmm. Philippe K. Dick avait cette capacité troublante d'être extraordinairement charmeur, extrêmement intelligent et extrêmement convaincant.
Oui, comme il avait réussi à charmer les agents du FBI, par exemple.
Et quelque part, sa femme, termine la biographie qu'elle lui a consacrée en racontant comment elle a retrouvé le psychiatre que son mari avait réussi à retourner. Et l'étrange dialogue entre elle et lui, hein, où elle lui explique qu'elle aimait toujours son mari. Hein. Mmh.
Donc c'est un personnage manipulateur qu'on découvre là.
Oui, être un grand écrivain ne fait pas forcément de vous quelqu'un de bien. Et donc ils vont se séparer et Philippe K. Dick va retourner vivre quelque temps chez sa mère.
Ouais. Donc il retourne à Berkeley, là on est en 1964, il a 36 ans et on a quand même le sentiment après d'une espèce de longue déchéance sur le plan personnel en même temps que au fur et à mesure sa littérature pour le coup prend de l'ampleur et qu'il est de plus en plus connu. Est-ce qu'on peut résumer les choses comme ça ou est-ce qu'il faudrait nuancer Étienne Barillier?
Non, c'est vrai. C'est l'époque où il va être de plus en plus traduit au niveau international. Il a une reconnaissance dans le milieu de la science-fiction aux États-Unis, mais sa vie personnelle est une longue déchéance, on pourrait dire, qui va s'étendre dans des épisodes dépressifs de plus en plus violents. Mmh.
Ouais, c'est ce que vous appelez les années compliquées. Ces années compliquées à partir du retour à Berkeley, qui commence d'ailleurs par un accident de voiture. Et là, c'est aussi une des premières profondes dépressions qui vont être causées par cet accident de voiture.
Oui, il va être immobilisé de nombreux mois. Et puis là, c'est aussi le corps qui lâche, la pression qui continue, l'idée que qu'il a perdu le grand amour de sa vie. Voilà, tout est difficile pour lui. Et puis ne pas oublier que il avait eu un enfant. Donc il y a le fait que sa fille s'éloigne un petit peu.
Mmh. Il y en aura plusieurs, il y en aura encore des enfants, parce qu'il y aura encore plusieurs femmes à commencer.
Avec sa femme suivante, oui.
Nancy Hackett,
oui,
voilà.
Après, il y aura Nancy.
Qu'il épouse en 65.
Oui. Donc avec... Et qu'il voilà, il va avoir deux enfants avec elle. Mais ça va, là aussi, ça va être un mariage de courte durée, parce que la vie avec lui n'est pas vivable. Il a la quarantaine, il écrit beaucoup, mais il prend trop de cachets, il n'est pas fiable mm-hmm. en tant que personne. Le mariage ne peut pas tenir. Mmh.
Alors, c'est le moment aussi où la drogue est de plus en plus présente, et cette drogue, évidemment, agit sur son psychisme, et il devient de plus en plus paranoïaque. Il fait même des séjours en psychiatrie.
Oui. Une paranoïa qui va s'accentuer, parce que tout d'un coup, sa femme va partir avec les enfants, il va se retrouver seul dans une grande maison vide, qu'il va devenir une espèce de porte ouverte où les drogués des environs, les adolescents en fugue, toute une faune va s'installer chez lui.
Alors lui, il sort quasiment plus de chez lui, en revanche.
Oui, c'est une, je caricature, mais une espèce de cour des miracles qui va tourner autour de lui. Et il a un coffre-fort dans lequel il a rangé tous ses précieux manuscrits, parce qu'il craint qu'on les lui vole. C'est vraiment des années, enfin des mois très très sombres. Et ce qui, entre parenthèses, va pouvoir peut-être le sauver, c'est qu'en 72, il va être invité à une convention au Canada. Ça va être une des rares fois de sa vie où il va quitter la Californie. Et là-bas, il va réussir à se faire interner dans un centre de désintoxication, alors que lui, il était accro aux médicaments, et ça sera un centre pour drogue dure, hein, pour héroïnomane, et je sais pas comment il a réussi à les convaincre qu'il l'interner là. Mais au moins, il va pouvoir être sevré.
Alors, autre chose qui va sans doute l'aider à la fin de sa vie, c'est la reconnaissance qu'il va trouver en France. Écoutez un extrait d'un texte où il en parle.
Lors de mon séjour en France, j'ai fait une expérience intéressante. J'ai connu ce qu'était la célébrité. Dans ce pays, je suis l'auteur de SF le plus aimé, le meilleur de tous. Je vous le dis pour ce que ça vaut. J'étais l'invité d'honneur du festival de Metz, auquel je me suis déjà référé, et j'ai prononcé une conférence qui, chose qui m'est typique, n'avait pas le moindre sens. Même les Français ne purent la comprendre, en dépit d'une traduction. Lorsque j'écris le texte d'une conférence, quelque chose se détraque dans mon cerveau. Je dois m'imaginer que je suis une réincarnation de Zoroastre et que j'apporte des nouvelles de Dieu. C'est la raison pour laquelle je m'efforce de faire le moins de conférences possible. On peut me contacter, me proposer d'importantes sommes d'argent pour en faire une. Je trouverai un prétexte vaseux pour me défiler. Je répondrai n'importe quoi, un mensonge flagrant. Mais le fait de me trouver en France et de voir tous mes livres dans des éditions magnifiques et coûteuses, et non en petit format de poche avec ses couvertures dont Spinrad dit qu'elles vous arrachent les yeux, ce fut fantastique, dans le sens de l'irréalité. Ce fut la plus belle semaine de ma vie. Je pense que là-bas, à Metz, je fus réellement heureux pour la première fois de ma vie. Non parce que j'y étais célèbre, mais parce que toutes les personnes présentes étaient tellement excitées. Les Français sont saisis de frénésie lorsqu'il s'agit de commander un repas. C'est comme les vieilles discussions politiques que nous avions à Berkeley. Sauf que seule la nourriture est en question. Le choix d'une rue pour se rendre d'un point à un autre implique l'attroupement de 10 Français qui crient et gesticulent, avant de s'égayer dans des directions différentes. Les Français, tout comme Spinrad et moi-même, envisagent les possibilités les plus improbables dans chaque situation. Ce qui explique sans doute ma popularité dans leur pays.
La Compagnie des œuvres sur France Culture. Donc, Dick va toujours dire le plus grand bien de la France. Il a beaucoup de lecteurs. On aime ici sa littérature. C'est quand même un pansement, peut-être, à la fin de sa vie, que de découvrir cela, Étienne Barillier.
La fin de sa vie, les ventes de livres à l'étranger vont lui apporter une aisance financière qui sera démultipliée par les ventes de droits à Hollywood. Mais il aura toujours cette reconnaissance envers la France d'être un pays où il se sera toujours vu comme étant reconnu comme un écrivain et non pas comme un écrivain de science-fiction ou un écrivain de gare ou un mais véritablement comme un écrivain avec E majuscule. Le seul souci avec la France, c'est que dans notre pays, on a la détestable habitude de l'appeler K. Dick. Je vous le rappelle, que Philippe Kindred Dick, Kindred est son deuxième prénom.
On donc dit bien W. Bush, hein.
Philippe Dick.
C'est la même chose.
On ne le dit plus. Oui, oui, mais vous ne dites pas F. Kennedy.
Ouais. Bon, je crois qu'on l'a pas dit au cours de cette émission, en tous les cas. Je voudrais signaler parce que
vous l'avez dit deux fois.
Ah, je l'ai dit deux fois. Bon, excusez-moi. En août 1978, sa mère meurt. On imagine, étant donné la relation fusionnelle oui. qu'ils avaient, que c'était un moment difficile.
Oui.
Voilà. Et puis, il pense lui-même à sa propre mort. Il est assez suicidaire.
À sa propre fin. Mm-hmm. Il a fait plusieurs tentatives de suicide tout au long de sa vie. Mais soit c'était des appels à l'aide ou simplement des crashs dépressifs.
Ouais. En février 1982, il pense à un nouveau roman, The Owl in Daylight. Mais le 18 février, alors qu'il devait se rendre à une soirée chez Tim Powers, un de ses amis qui est aussi auteur de science-fiction, il est découvert chez lui, inanimé. Il a fait une attaque et il va mourir le 2 mars. Il a repris quand même conscience à l'hôpital, mais il ne pouvait plus parler. C'est donc la fin de Philippe K. Dick, très jeune, Étienne Barillier.
Oui, 54 ans. Enfin, quand on voit la quantité de textes produits et la vie qu'il a pu avoir, on peut oublier sa jeunesse et on ne peut que regretter qu'il soit parti si tôt. Hein.
Ouais. Merci beaucoup, Étienne Barillier. Pour aller plus loin, on peut évidemment se procurer votre guide Philippe K. Dick, et non pas K. Dick tout seul. Vous l'avez signé aux éditions Actu SF dans la collection Helios. Un très grand merci à vous. Et c'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Élise Le. Demain, nous parlerons davantage de l'œuvre et des grands thèmes dickiens au cours d'une émission avec Laurent Kessy, qui publie les nouvelles complètes de l'auteur aux éditions Gallimard.